Let me say something very briefly to start with, by way of introduction to Michel Wiewiórka. We know him, many of us, as president of the Fondation MSH. He is also the director of studies at the School of Advanced Social Studies in Paris here. He's the general director of the platform, the Observatory on Violence and Exiting Violence, which also includes the Observatory on Radicalization. And he is co-director of the IPEV project. He's a member of the scientific committee of the European Research Council and founder of the journal Socio. His research focus includes, they are numerous, they include violence, conflict, terrorism, racism, anti-Semitism, social movements, democracy, and issues of cultural difference. He has numerous books and publications in all these different fields and themes, which I'm not going to detail at the moment. We look forward to his presentation in his seminal role as one of the initiators of IPEV. Michel.
Merci, Mala. L'idée de ce panel, de cette initiative, est née chez moi après les attentats en France de janvier 2015, Charlie Hebdo, puis l'hypercachère. Et là, je me suis dit qu'il fallait réfléchir à cette violence extrême, mais aussi aux réponses qui peuvent être apportées. Et qu'il était nécessaire de ne pas se limiter à un seul type de violence, le terrorisme, si tant est d'ailleurs que l'on puisse définir correctement ce mot, terroriste, c'est pas si simple, mais parce que d'abord, ce terrorisme-là, islamique, est indissociable d'autres questions de violence. On ne peut pas y réfléchir si on ne parle pas, comme ça a été fait déjà ce matin, du chaos, de la guerre civile, de la retombée dramatique des révolutions dans le monde arabo-musulman. Si on ne parle pas aussi des violences urbaines, je pense à la France, qui en a connu en 2005, et il y a quelques liens, je pense, entre la retombée de ces violences urbaines et les épisodes terroristes plus récents. Bref, que nous avons intérêt à ouvrir le spectre de notre réflexion, ne serait-ce que pour mieux comprendre le terrorisme, mais pas seulement. Et donc, notre idée a été la suivante, avec Jean-Pierre Dozon, qui m'a tout de suite rejoint, avec qui je dirige cette initiative, avec Hocham Daoud, avec Yvon Lebot. Notre idée a été de dire, nous allons essayer de mobiliser des chercheurs du monde entier. Nous sommes dans cette salle, peut-être 120 ou 130, dont les deux tiers ou les trois quarts vont participer activement à ce processus de recherche. De mobiliser ces chercheurs dans des groupes de travail qui sont en train de se constituer, qui commencent à l'être, qui peuvent aller de 5 à 10 personnes, tout ça doit être évidemment très très souple, chaque groupe se chargeant sous la responsabilité d'un ou deux chercheurs de construire sur un sous-thème, donc, de construire une analyse la plus sérieuse, la plus profonde possible, avec des préoccupations thématiques, avec des préoccupations qui peuvent être territoriales. Chaque groupe a une certaine autonomie, mais il y a aussi des moments où le travail prend une forme collective, disons, de synthèse, de mise en commun de nos analyses. Ceci doit être, à mes yeux, pluridisciplinaire, c'est évident. Aucun enfermement dans une école de pensée ou dans une orientation. Et tout ceci doit aboutir à des publications. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthode, parce que je crois que chacun y voit à peu près clair, et que nous devrions pouvoir avancer, je crois, assez simplement. Et je voudrais donc juste utiliser le temps de parole qui est le mien pour faire 5 remarques. La première, c'est qu'il y a un paradoxe dans la démarche qui est la nôtre. Les sciences humaines et sociales ont fait depuis longtemps de la violence une de leurs préoccupations centrales. Elles se sont beaucoup moins intéressées à la sortie de la violence, en tout cas pour en faire un objet d'analyse, un objet d'étude. Et quand on regarde ce qui existe en matière de connaissances sur cette question de la sortie de la violence, si on veut bien donner un sens un peu flou ou un peu large à l'expression, ça peut être l'amenuisement de la violence, ça peut être l'empêchement de la violence, eh bien on s'aperçoit que c'est un domaine qui n'a aucune unité. Il y a des experts, il y a des professionnels, il y a des spécialistes, il y a des militants, il y a des diplomates, il y a des militaires, il y a des ONG, il y a beaucoup de gens qui ont des compétences, qui écrivent, ou qui publient des analyses. Il y a quelques chercheurs aussi, bien sûr. Mais ce domaine qui nous oblige à aller dans un espace intellectuel immense, depuis ce qui est le plus intime, ma subjectivité a été brisée, j'ai été traumatisé lors d'un attentat terroriste, jusqu'à ce qui est le plus global ou le plus général, que je ne sais pas quel est le rôle des grandes puissances au Moyen-Orient, comment comprendre la géopolitique de la région. Vous voyez, tout ça c'est un domaine gigantesque que je crois éclaté et qui mérite d'être construit et intégré. Ça c'est l'idée d'ensemble. Et donc le paradoxe tout de suite qui m'est venu à l'esprit, c'est celui-ci. C'est que évidemment on ne peut pas réfléchir et analyser la sortie de la violence sans analyser la violence. Et donc la tentation, elle est d'analyser d'abord la violence et de mobiliser des gens qui ont beaucoup de choses à dire sur la violence. Ses sources religieuses, culturelles, économiques, sociales. Nous avons beaucoup parlé d'inégalité, par exemple, hier soir, lors d'une réunion du comité de Advisory Board, dont j'ai dit un mot tout à l'heure. Mais évidemment, ça ne suffit pas à indiquer quelle peut être la spécificité d'un domaine qu'on appellerait sortir de la violence. Parce que s'il n'y a pas de spécificité, si on pense qu'il suffit de comprendre la violence pour analyser la sortie de la violence, alors c'est comme si on pensait qu'il fallait faire le même chemin, mais en sens inverse, que celui qui a conduit à la violence. Vous voyez, ce genre de raisonnement. Non. Il faut à la fois être capable d'analyser la violence, je crois, et en même temps de construire la spécificité de ce domaine, de cet ensemble de problèmes. Et ça n'est pas si simple. Et donc, je le dis très franchement, ça doit nous inciter à une très grande modestie ou à une très grande prudence. Nous allons commencer à défricher un domaine sur lequel nous aurons certainement bien des surprises et qui n'est pas facile. C'est ma première remarque, ce paradoxe. Le deuxième point sur lequel je voudrais dire quelques mots, je vais l'illustrer par ce qui a semblé être une polémique, qui à mon avis ne méritait pas d'en être une, qui a opposé en France deux points de vue principaux. On a vu surgir il y a à peu près un an et demi dans le débat public, l'idée qu'il fallait choisir. Ou bien vous êtes du côté de ceux qui pensent que le terrorisme c'est d'abord une question de religion, ou bien vous êtes du côté de ceux qui pensent que le terrorisme c'est d'abord une question de radicalisation. Évidemment, et je parle sous le contrôle de mon voisin Olivier Roy, les deux mon capitaine. Je veux dire qu'on ne peut pas dire que la religion n'a rien à voir avec tout ça, s'il s'agit du terrorisme islamique, mais il faut aussi admettre que ce qui fabrique cette violence extrême a beaucoup à voir avec des logiques qui ne sont pas seulement, et peut-être même initialement, pas du tout religieuses. Donc il faut conjoindre, articuler les deux points de vue, c'est la position, je pense, de mon ami et voisin Olivier. Et donc, voilà. Mais c'est intéressant parce que cela nous invite à réfléchir à des oppositions théoriques que nous allons être amenés, peut-être, à mieux formuler, à mieux découvrir. L'articulation des deux points de vue n'est peut-être pas non plus si évidente ou si facile que ça à construire. Et j'ajoute tout de suite, autre tension, mais qui est très complémentaire de celle que je viens d'évoquer, nous devons construire nos analyses dans une perspective qui tient compte de l'espace. En France, écoutez même, pensez même à ce que nous avons entendu ce matin. Il fallait parler des banlieues, d'une certaine façon. Et donc, oui, pas que des banlieues, et pas tout imputé aux banlieues, mais enfin, on ne comprend pas un certain nombre d'aspects de la violence terroriste d'aujourd'hui si on ne connaît pas la question dite des banlieues. Et puis on a entendu aussi notre ami Malabatia nous dire, si vous voulez comprendre quelque chose, regardez le chaos moyen-oriental, les problèmes de la construction d'État-nation dans cette région, la colonisation, etc. Alors, c'est très intéressant de se dire que dès qu'on ouvre la perspective, qu'on la globalise, qu'on pense à une échelle planétaire et pas seulement nationale ou régionale même, alors des tensions intellectuelles nouvelles peuvent surgir ou se mettre en place, qui peuvent être assez proches de celles que j'ai évoquées avant, mais qui me semblent être absolument indispensables. Et donc, comment on analyse, comment on hiérarchise, comment on articule, comment on intègre, comment on circule, et je crois que c'est l'idée qui me convient le mieux finalement, comment on circule entre diverses perspectives. Je ne dis pas que Eric ou que Mala, tout seul a raison, mais je dis qu'il est bon qu'ils puissent aujourd'hui s'être rencontrés. Et donc, il me semble que nous devons, je vais le dire dans un autre vocabulaire, réfléchir de manière globale et en sachant qu'il y a toutes sortes de registres qu'il faut mettre en œuvre et que ces registres ne pèsent pas de la même façon selon le point de vue territorial ou spatial dans lequel on se pose. Alors, je l'ai dit et je voudrais vraiment le dire avec beaucoup de force, nous ne nous intéressons pas seulement au terrorisme et encore moins seulement au terrorisme islamique. Nous lui accordons évidemment une place importante, mais nous nous intéressons à différentes parties du monde. Et c'est en particulier une des grandes originalités de cette démarche que de dire qu'est-ce qui se passe quand des chercheurs qui connaissent bien l'Amérique latine, les guérillas, les dictatures, la sortie des guérillas, la sortie des dictatures, mais aussi les difficultés de l'État à se construire dans cette partie du monde. Qu'est-ce qui se passe quand des chercheurs qui connaissent bien cette partie du monde rencontrent des chercheurs qui, eux, connaissent bien les questions du Moyen-Orient ? Est-ce qu'ils n'ont pas des choses à s'apprendre les uns les autres, des manières de poser les problèmes ? Ce n'est pas simplement de dire « il y a eu tel truc qui a marché en Colombie, donc il faudrait l'appliquer en Syrie ». Non, évidemment pas. Mais de mettre ensemble des modes d'approche et des analyses pour voir ce que l'on peut en tirer d'utile, j'ai envie de dire, des deux points de vue. Et ici, je voudrais dire un mot qui ouvre un débat un peu compliqué, donc je vais juste l'entrouvrir. Je pense que nous devons être capables, sinon de dépasser le comparatisme, du moins de sortir des modalités habituelles du comparatisme. Pourquoi je dis ça ? Parce que le comparatisme, trop souvent, consiste à dire, moi qui suis spécialiste de telle partie du monde, ou de tel pays, ou de telle expérience, je vais comparer mes analyses, je vais prendre mes analyses et je vais comparer avec ce qui se passe dans telle autre partie du monde. Bon. Le danger, c'est l'ethnocentrisme. C'est que sans s'en rendre compte, très souvent, la comparaison est construite avec des catégories qui sont celles de celui qui lance la comparaison, ou du groupe dominant dans le processus de construction d'une comparaison. Et donc, je pense qu'il vaut mieux penser un peu autrement et se demander comment construire effectivement des démarches comparatives qui soient aussi des démarches globales, c'est-à-dire des démarches qui ne privilégient pas un point de vue, disons, ethnocentrique, qui serait celui d'une partie du monde ou d'un type de pensée. Je le dis parce que ça vient très vite, cette espèce d'ethnocentrisme dans la comparaison, et que c'est très, très dangereux. Et donc, oui, circuler, nous avons un de nos collègues philosophes, François Julien, qui le dit très bien quand il circule entre la pensée philosophique chinoise et la pensée philosophique occidentale. Il ne dit pas du tout qu'il compare l'une à l'autre. Il circule, il va de l'une à l'autre. Je voudrais faire encore trois remarques, je crois. Vous m'arrêtez si je suis trop long. Je voudrais dire qu'il faut aussi, j'ai dit partir avec prudence et modestie, savoir que nous allons rencontrer, chemin faisant, beaucoup de fausses pistes, beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées simples qui ne se révèlent pas forcément justes. J'en donne un exemple, je parle sous le contrôle de mon ami Reichmann, j'ai peut-être tort d'ailleurs, mais c'est un exemple comme ça. C'est peut-être trop vite dit que les problèmes de traumatisme se règlent mieux s'il y a des accompagnants, des gens, des psychologues, des psychiatres, etc., qui aident les victimes. C'est peut-être vrai, je ne le sais pas. Mais oui, c'est une idée qu'on est prêts tous à partager et qui peut se révéler fausse. C'est peut-être aussi naïf de croire qu'on peut sortir de la violence. Nous avions une discussion hier soir très intéressante à propos de la sortie de la violence. Je parle trop vite, me dit-on. Nous avions une discussion très intéressante dans laquelle il est clair que la sortie d'une certaine violence peut générer d'autres violences. Vous voyez, donc je ne vais pas développer tout ceci, mais s'enverser dans des postures qu'on pourrait appeler hypercritiques, des postures où l'on soupçonne, des postures où on dénonce et rien d'autre, je pense que notre rôle de chercheur, c'est aussi d'être très critique et donc de ne pas accepter des idées trop simples ou trop stéréotypées. Il y a un point important maintenant qui concerne notre démarche. Nous sommes ceux qui vont participer à tous ces groupes, nous sommes des chercheurs qui ont d'abord l'habitude de travailler seuls ou dans des petites équipes ou au sein de milieux relativement bien limités. ça a des grands avantages. Je dirais même, il y a des œuvres exceptionnelles dans les sciences sociales qui n'auraient pas été possibles si tel ou tel grand anthropologue n'avait pas été s'enfouir pendant des années sur une île du fond du Pacifique ou ce genre de choses. Et puis d'un autre côté, nous voyons bien l'avantage qu'il peut y avoir à travailler ensemble, à collaborer, à coopérer. Mais ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas si facile que ça de mettre ensemble des gens qui ont l'habitude, et dont c'est la fonction classique de publier leur propre travail, de travailler plus ou moins seul ou avec des toutes petites équipes, et de mettre en place une telle coopération, une telle collaboration. Et donc là aussi, je voudrais que nous soyons modestes ou prudents. Il sera très important d'être capable de respecter ces deux dimensions de la recherche qui sont la personnalité du chercheur, sa singularité, sa capacité à produire des textes personnels d'un côté et d'un autre côté, évidemment, le formidable apport de la coopération du type de celle que nous essayons de mettre en place. On peut rentrer beaucoup plus dans le détail dans ce genre de discussion, mais je voudrais moi vraiment vous dire qu'il va falloir refuser, de trop aller uniquement dans un sens ou uniquement dans un autre. Et que par exemple, une pure coopération qui ne tiendrait pas compte des individualités, ça risque d'aboutir au mainstream, à la pensée un peu aplatie. On parlait tout à l'heure d'aplatissement de la planète. C'est évidemment pas ça que nous voulons. Enfin, ce sera mon dernier point. Je pense que nous avons tous des sentiments complexes par rapport à l'idée d'une réponse à des attentes, et en particulier des attentes politiques ou des attentes qui viendraient de la puissance publique ou des attentes qui viendraient de grandes fondations ou autres. Pourquoi je dis ça ? Parce que les chercheurs sont jaloux de leur indépendance, ils aiment bien choisir leurs objets, leurs méthodes, leurs théories, et ils aiment bien dire que ce n'est pas à la puissance publique ou à telle ou telle fondation de leur dire ce qu'ils doivent chercher et comment ils doivent le chercher d'un côté. Puis d'un autre côté, nous avons aussi la plus vive conscience que sur un sujet surtout comme celui qui nous rassemble, évidemment, nous devons répondre à de formidables attentes. Nous voulons tous plus de démocratie, nous voulons vivre dans un monde, je repense à ce que nous a dit Mme Bakia, dans un monde où la raison trouve sa place, où l'héritage des Lumières ne soit pas bafoué. Et donc par conséquent, la question, elle est donc non pas d'opposer l'indépendance des chercheurs et, disons, les attentes médiatisées d'une façon ou d'une autre par la puissance publique ou par les grandes fondations. Notre problème est d'apprendre à, là encore, à articuler les registres sans demander aux chercheurs de se transformer en acteurs publics, ni de demander à des acteurs publics de se transformer en chercheurs. Je pense que cela veut dire pour nous, chercheurs, qu'il est absolument nécessaire de développer des modes de relation avec des décideurs, avec des acteurs, ça peut être des pouvoirs, ça peut être des contre-pouvoirs, de créer un maximum de relations de façon à ce que l'éclairage que nous apportons puisse leur servir, qu'ils puissent nous aider aussi parfois, mais qu'en même temps il n'y ait pas fusion ou confusion des deux registres. Et je pense que le dispositif que nous mettons en place de ce point de vue-là se présente bien. C'est-à-dire qu'il est clair que les rôles ne doivent pas être confondus. J'illustre cette remarque en vous disant ceci. En principe, les groupes de travail sont des groupes de chercheurs. Il y a quelques spécialistes qui viennent d'autres univers, mais en principe, c'est des groupes de chercheurs. Le groupe d'évaluation, le comité d'évaluation, lui, est plus nettement composé aussi de représentants, d'acteurs, d'ONG, d'experts, de gens qui ont une expérience, et pas simplement dans la recherche. Et donc, nous devrons tous, je pense, essayer le plus possible de démultiplier les relations avec ceux qui peuvent faire quelque chose de l'éclairage que nous allons construire. Je termine par un dernier mot. Je pense qu'il faut éviter aussi, ou en tout cas se poser aussi la question du tabou que constitue la violence dans nos sociétés. Moi, j'appartiens à la vieille génération qui se souvient de Jean-Paul Sartre rédigeant une préface tonitruante à un livre qui était déjà plutôt favorable à une certaine violence, de Frantz Fanon, Les damnés de la Terre. Et à l'époque, je faisais partie de ceux qui trouvaient que c'était pas mal. Dans les années 60-70, la vie intellectuelle laissait beaucoup d'espace à l'idée de violence révolutionnaire, à l'idée de violence décolonisatrice. Alors, Je le dis non pas pour vous dire vive la violence, c'est vraiment pas mon style, je pense que vous l'avez compris. Mais n'oublions pas quand même que la violence peut avoir, à certains moments, chez certaines personnes, dans certains contextes, dans certaines situations, peut avoir aussi une dimension émancipatrice. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, car sinon nous serions un peu naïfs et nous passerions aussi à côté de certaines réflexions. Je voulais le dire, là aussi, pour nous inciter à une certaine prudence. Voilà, chère présidente, je vous remercie.